Chapitre 4. La révolution de 1830 désarçonne Victor Hugo, mais ne l'empêche pas de continuer, comme par le passé, à toucher ses 3000 francs de pension si honorablement gagnés. La préface des Feuilles d'automne, publiée en 1831, le montre hésitant. Il avait noué des relations avec de jeunes et ardents républicains qui, pour l'attirer, le flattaient. Ainsi, la biographie des contemporains de Rab dit que Hugo avait chanté des trois jours dans les plus beaux vers qu'ils avaient inspirés. Mais les doctrines républicaines, qui ne savaient se donner du poids par des gratifications, pénétraient difficilement dans son cerveau. Il n'eut pas besoin, comme le Marius des Misérables, de monter sur les barricades et d'y recevoir des blessures pour se guérir de son néo-républicanisme. Dès qu'il comprend que le trône de Louis-Philippe est affermi, il déclare « Il nous faut la chose république et le mot monarchie ». Cette phrase, qui paraîtra un plagiat du mot historique de Béranger, est une profession de foi. Elle voulait dire qu'il allait accepter les grâces et faveurs de la monarchie tout en restant républicain dans son fort intérieur. Sous Louis XVIII et Charles X, il adorait Napoléon dans son cœur et l'insultait dans les vers publiés, pour plaire à ses patrons légitimistes. Le républicain flatta Louis-Philippe pour obtenir la pairie, comme le napoléonien adula les Bourbons pour arracher des pensions. Le 21 juin 1842, il eut le courage de jeter à la face de Louis-Philippe des phrases de ce calibre. « Sire, vous êtes le gardien auguste et infatigable de la nationalité et de la civilisation. Votre sang est le sang du pays. Votre famille et la France ont le même cœur. Sire, vous vivrez longtemps encore, car Dieu et la France ont besoin de vous. » Victor Hugo a toujours été cosmopolite. Il unissait tous les rois d'Europe dans son adulation. Plus tard, après 1848, il parlera des États-Unis d'Europe, mais auparavant, il avait béni l'avènement de la reine Victoria et célébré le tsar Nicolas, le noble et pieux empereur. En 1846, il priait le baron de Humboldt de remettre un de ses discours académiques à son auguste roi pour lequel vous connaissez ma sympathie et mon admiration. Cette majesté si admirée était Guillaume IV, roi de Prusse et frère de l'empereur d'Allemagne, couronné à Versailles. Note, ces détails biographiques que par une modestie déplacée, Victor Hugo supprima dans l'autobiographie qu'il dicta à sa femme, ont été rétablis dans l'étude si érudite et si spirituellement écrite de M. Biré, Victor Hugo avant 1830, 1883. On ne saurait trop en recommander la lecture aux hugolâtres qui désirent connaître intimement leur héros. Fin de note. L'histoire ne raconte pas si le poète reçut des gratifications des majestés unies d'Europe. Enfin arrive le grand jour. Hugo, reconquérant la liberté de sa pensée, ne sera plus obligé de flatter les rois en public et de chérir la République dans son fort intérieur. La révolution de 1848 chasse l'auguste gardien de la civilisation et juge au pouvoir les républicains du National, un journal de l'époque. Un instant, on croit la régence possible. Victor Hugo s'empresse de la demander place des Vosges. On proclame la République. Victor Hugo, sans perdre une minute, se métamorphose en républicain. Les personnes qui s'arrêtent aux apparences l'accuseront d'avoir varié, parce que tour à tour, il fut bonapartiste, légitimiste, orléaniste, républicain. Mais une étude un peu attentive montre au contraire que sous tous ces régimes, il n'a jamais modifié sa conduite. Que toujours, sans se laisser détourner par les avènements et les renversements de gouvernement, il poursuivit un seul objet, son intérêt personnel, que toujours il resta hugoïste. « Ce qui est pire qu'égoïste », disait cet impitoyable railleur de Heine, que Victor Hugo, incapable d'apprécier le génie, ne put jamais sentir. Est-ce la faute à ce pauvre homme si pour faire fortune, le but sérieux de la vie bourgeoise, il dut mettre à son chapeau toutes ses cocardes? Si faute il y a, qu'elle retombe sur la bourgeoisie qui acclama et renversa successivement tous ses gouvernements. Hugo pâtit de ses variations politiques. Jusqu'en 1830, il dut étouffer son ardente admiration pour Napoléon. Et jusqu'en 1848, il dut ensevelir son républicanisme sous des flatteries au roi, comme Harmodius cachait son poignard tyrannicide sous des fleurs. Ils comprennent bien mal Hugo, ceux qui voient en lui un homme voué à la réalisation d'une idée. À ce compte, sa vie serait un tissu de contradictions irréductibles. Il laissa ce rôle aux idéologues, aux uluberlus qui rêvent leur vie. Il se contenta d'être un homme raisonnable, ne s'inquiétant ni de l'effigie de ses pièces de 100 sous, ni de la forme du gouvernement qui maintient l'ordre dans la rue, fait marcher le commerce et donne des pensions et des places. Dans son autobiographie, il déclare explicitement que la forme du gouvernement lui semblait la question secondaire. Dans la préface des Voix intérieures de 1837, il avait pris pour devise « être de tous les partis par leur côté généreux, c'est-à-dire qui rapporte, n'être d'aucun par leur mauvais côté, c'est-à-dire qui occasionne des pertes. » Hugo a été un ami de l'ordre. Il n'a jamais conspiré contre aucun gouvernement. Celui de Napoléon III excepté, il les a tous acceptés et soutenus de sa plume et de sa parole, et ne les a abandonnés que le lendemain de leur chute. Sa conduite est celle de tout commerçant, sachant son métier. Une maison ne prospère que si son maître sacrifie ses préférences politiques et accepte le fait accompli. Les Dollfuss, les Koechlin, les Scherer-Kessner, ces républicains modèles de Mulhouse, la cité libre jusqu'en 1793, ne sont-ils pas accommodés à tous les régimes qui, depuis près d'un siècle, se sont succédés en Alsace? N'ont-ils pas reçu des subventions de l'Empire et ne lui ont-ils pas réclamé des franchises douanières pour leur industrie et des mesures répressives contre leurs ouvriers? Les affaires d'abord, la politique ensuite. De 1848 à 1885, Hugo se comporte en républicain honnête et modéré. Et l'on peut défier ses adversaires de découvrir pendant ces longues années un seul jour de défaillance. En 1848, les conservateurs et les réactionnaires les plus compromis se prononcèrent pour la République que l'on venait de proclamer. Victor Hugo n'hésita pas une minute à suivre leur noble exemple. « Je suis prêt, dit-il, dans sa profession de foi aux électeurs, à dévouer ma vie pour rétablir la République qui multipliera les chemins de fer, décuplera la valeur du sol, dissoudra l'émeute, fera de l'ordre la loi des citoyens, grandira la France, conquérera le monde, sera en un mot le majestueux embrassement du genre humain sous le regard de Dieu satisfait. Cette république est la bonne, la vraie, la république des affaires qui représente les côtés généreux de sa devise de 1837. « Je suis prêt, continua-t-il, à dévouer ma vie pour empêcher l'établissement de la république qui abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge, fera des gros sous avec la colonne, jettera à bas la statue de Napoléon et dressera la statue de Marat, détruira l'Institut, l'école polytechnique et la Légion d'honneur. Ajoutera à l'illustre devise « Liberté, égalité, fraternité » l'option sinistre ou la mort. Fera banqueroute, ruinera les riches sans enrichir les pauvres, anéantira le crédit qui est la fortune de tous et le travail qui est le pain de chacun, abolira la propriété et la famille, promènera des têtes sur des pics, remplira les prisons par le soupçon et les videra par le massacre, mettra l'Europe en feu et la civilisation en cendres, fera de la France la patrie des ténèbres, égorgera la liberté, étouffera les arts, décapitera la pensée, niera Dieu. » Fin de citation. Cette république est la république sociale. Victor Hugo a loyalement tenu parole. Il était de ceux qui fermaient les ateliers nationaux, qui jetaient les ouvriers dans la rue pour noyer dans le sang les idées sociales, qui mitraillaient et déportaient les insurgés de juin, qui votait les poursuites contre les députés soupçonnés de socialisme, qui soutenait le prince Napoléon, qui voulait un pouvoir fort pour contenir les masses, terroriser les socialistes, rassurer les bourgeois et protéger la famille, la religion, la propriété menacée par les communistes. Ces barbares de la civilisation. Avec un courage héroïque, qu'aucune pitié pour les vaincus, qu'aucun sentiment pour la justice de leur cause n'ébranlèrent, Victor Hugo, digne fils de Brutus Hugo de 1793, vota avec la majorité, maîtresse de la force. Ses votes glorieux et ses paroles éloquentes sont bien connus. Ils sont recueillis dans les annales de la réaction qui accoucha de l'Empire. Mais on ignore la conduite non moins admirable de son journal, l'Événement, fondé le 30 juillet 1848, avec le concours de Vacry, de Théophile Gautier et de ses fils. Elle mérite d'être signalée. L'Événement prenait cette devise qui, après juin, était de saison. Haine à l'anarchie, tendre et profond amour du peuple. Et pour qu'on ne se méprît pas sur le sens de la deuxième sentence, le numéro spécimen disait que l'Événement vient parler aux pauvres des droits du riche, à chacun de ses devoirs. Le numéro du 1er novembre annonçait qu'il est bon que le National, qui s'adresse à l'aristocratie de la République, se donne pour 15 centimes, que l'événement qui veut parler aux pauvres se vende pour un sou. Le poète commençait à comprendre que dans les petites bourses des pauvres se trouvaient de meilleures rentes que dans les fonds secrets des gouvernements et les coffres-forts des riches. Suivant l'exemple donné par les tiers de la rue de Poitiers, car Victor Hugo imita toujours quelqu'un, l'événement endoctrine le peuple, répand dans les masses ouvrières les saines et consolantes théories de l'économie politique, réfute Proudhon, combat le langage des flatteurs du peuple qui le calomnie. Le peuple écoute ceux qui l'entretiennent des principes et des devoirs plus volontiers que ceux qui lui parlent de ses intérêts et de ses droits. Numéro du 1er novembre. Il se fait l'apôtre du libéralisme, cette religion bourgeoise qui amuse le peuple avec des principes, lui inculque des devoirs et le détourne de ses intérêts et de ses droits, qui lui fait abandonner la proie pour l'ombre. Après l'insurrection de juin, il ne restait, selon Hugo, qu'un moyen de sauver la République, la livrer à ses ennemis. Thiers pensait ainsi après la Commune. La Réforme, incapable de s'élever jusqu'à l'intelligence de cette machiavélique tactique, se plaignait de ce que les républicains sont mis à l'index. On les fuit, on les renie, tandis qu'il n'y a pas de légitimistes ou d'orléanistes, si décriés, dont on épaule l'ignorance et qu'on essaie de réhabiliter à tout prix. L'événement lui rive son clou avec cette frappante réplique. Si les républicains sont à ce point suspects, n'est-ce pas la faute des républicains? Le christianisme n'a été réellement puissant que lorsque les prêtres en ont perdu la direction. Numéro du 1er août. Et pour protéger la République contre les républicains, le journal de Victor Hugo entre en campagne contre Cossidière parce qu'il n'est pas la tête, mais la main. Contre Louis Blanc parce que son crime, ce sont ses idées, ses livres, ses discours. Ses complices, ce sont ses 300 000 auditeurs. Numéro du 27 août. Contre Proudhon, parce qu'il est un petit homme à figure commune, un misérable avocat du peuple. Contre Ledru-Rollin, parce que ses circulaires ont plongé la civilisation dans une guerre civile de 4 jours. Depuis le 24 février jusqu'au 24 juin, M. Ledru-Rollin ont été un de ceux qui ont le plus contribué à frayer la route à l'abîme. Numéro du 6 août. Mais c'est en poursuivant de ses injures, de ses colères et de ses dénonciations les vaincus de juin, que l'événement donne la mesure de son profond amour pour la République. Écoutez, c'est l'auteur des Châtiments qui parle. Hier, au sortir de la plus douloureuse corruption, ce qui se déchaîna, ce fut la cupidité. Ceux qui avaient été les pauvres n'eurent qu'une idée, dépouiller les riches. On ne demanda plus la vie, on demanda la bourse. La propriété fut traitée de vol, l'État fut sommé de nourrir à grands frais la fainéantise. Le premier soin des gouvernants fut de distribuer, non le pouvoir du roi, mais les millions de la liste civile, et de parler au peuple non de l'intelligence et de la pensée, mais de la nourriture et du ventre. Oui, nous sommes arrivés à ce point que tous les honnêtes gens, le cœur navré et le front pâle, en sont réduits à admettre les conseils de guerre en permanence, les transportations lointaines, les clubs fermés, les journaux suspendus et la mise en accusation des représentants du peuple. Numéro du 28 août. La dure nécessité qui navrait le cœur des honnêtes gens et l'endurcissait pour la répression impitoyable obligeait Hugo à mentir impudemment. Le 28 août 1848, Victor Hugo, pour exciter les conseils de guerre à condamner sans pitié, dénonce les vaincus comme des pauvres qui n'eurent qu'une idée, dépouiller les riches. 2 mois auparavant, les pillards de juin avaient envahi sa maison. Il savait qu'il était un des 60 représentants envoyés par la Constituante pour réprimer l'insurrection et diriger les colonnes d'attaque. Ils fouillèrent les appartements pour chercher des armes. Ils virent pendu au mur un yatagan turc dont la poignée et le fourreau étaient en argent massif, rangé sur une table des bijoux, des cachets précieux en or et en argent. Quand ils furent partis, on constata que ses mains noires de poudre n'avaient touché à rien. Pas un objet précieux ne manquait. Ce sont là les propres paroles de Victor Hugo, narrant le sac de sa maison par les pillards de juin. Mais pour raconter la scène, il attendit que les conseils de guerre eussent terminé leur œuvre de répression, il était alors exilé. Victor Hugo reste toujours le même, au milieu des circonstances les plus diverses, pendant la restauration légitimiste, il insulte Napoléon, qui l'enthousiasme. Pendant la réaction bourgeoise, il calomnie les insurgés dont il admire les actes de délicate probité. Une étrange fatalité pesa sur Victor Hugo. Toute sa vie, il fut condamné à dire et à écrire le contraire de ce qu'il pensait et ressentait. En exil, pour plaire à son entourage, il pérora sur la liberté de la presse, de la parole et bien d'autres libertés encore. Cependant, il ne détestait rien de plus que cette liberté qui permet aux démagogues forcenés de semer dans l'âme du peuple des rêves insensés, des théories perfides et des idées de révolte. Événement du 3 novembre. L'insurrection abattue, la Chambre vota le cautionnement qui commandait « silence aux pauvres », selon l'expression de Lamennais. L'événement s'empressa, ainsi que les débats, le constitutionnel et le siècle, d'approuver cette mesure si favorable à la presse sérieuse, nous la considérons comme nécessaire, la société avait une liberté gangrénée, le cautionnement, ce chirurgien redouté, vient d'opérer le corps social. Numéro du 11 août. Le libertaire Hugo n'était pas homme à hésiter devant l'amputation de toute liberté qui inquiète la classe possédante et trouble les cours de la bourse. Victor Hugo commit alors la grande bévue de sa vie politique. Il prit le prince Napoléon pour un imbécile dont il espérait faire un marchepied. D'ailleurs, c'était l'opinion générale des politiciens sur celui que Rochefort devait surnommer « le perroquet mélancolique ». Car même dans l'erreur, Hugo ne fut pas original. En se trompant, il imitait quelqu'un. Il était si absorbé par le désir de se caser dans un ministère bonapartiste qu'il ne s'aperçut pas que les Morny, les Persigny et les autres Cassagnac de la bande avaient accaparé l'imbécile et qu'ils entendaient s'en réserver l'exploitation. Ces messieurs, avec un sans-gêne qui l'étonna et le choqua grandement, l'envoyèrent potiner dans sa petite succursale de la rue de Poitiers et escamotèrent à son nez et à sa barbe le ministère si ardemment convoité. Au lieu d'embourser son mécompte et de contenir son indignation, comme c'était son habitude, il s'oublia et se jeta impétueusement dans l'opposition. Les républicains de la Chambre, manquant d'hommes, l'accueillirent malgré son passé compromettant et le sacrèrent chef. Grisé, il rêva la présidence. Le coup d'État, qui surprit au lit les chefs républicains, dérangea ses plans. Il dut suivre en exil ses partisans, puisqu'il l'avait promu chef. Les chenapans, qui, à l'improviste, s'étaient emparés du gouvernement, étaient si tarés, leur pouvoir semblait si précaire, que les bourgeois républicains balayés de France ne crurent pas à la durée de l'Empire. Durant des semaines et des mois, tous les matins, tremblant d'émotion, ils dépliaient leur journal pour y lire la chute du gouvernement de décembre et leur rappel triomphal. Ils tenaient leur mal bouclé pour le voyage. Ces républicains bourgeois, qui avaient massacré et déporté en masse les ouvriers, assez naïfs pour réclamer l'échéance des réformes sociales qui devaient acquitter les 3 mois de misère, mis au service de la République, ne comprenaient pas que le 2 décembre était la conséquence logique des journées de juin. Ils ne s'apercevaient pas encore que lorsqu'ils avaient cru ne mitrailler que des communistes et des ouvriers, ils avaient tué les plus énergiques défenseurs de leur République. Victor Hugo, qui était incapable de débrouiller une situation politique, partagea leur aveuglement. Il injuria en prose et en vers le peuple parce qu'il ne renversait pas un instant l'Empire que lui et ses amis avaient fondé et consolidé dans le sang populaire. Jeté à bas de ses rêves ambitieux, et enfiévré par l'attente incessante de la chute immédiate de Napoléon III, Hugo, pour la première et l'unique fois de sa vie, lâche la bride aux passions turbulentes qui angoissaient son cœur. Déçu dans ses ambitions personnelles, il s'attaque furibondement aux personnes, aux Rouet, aux Maupas, aux Trollons, qui culbutèrent ses projets. Il les prend à bras le corps, les couvre de crachats, les mord, les frappe, les terrasse, les piétine avec une fureur épileptique. Le poète est sincère dans les châtiments. Il est là tout entier avec sa vanité blessée, son ambition trompée, sa colère jalouse et son envie rageuse. Ces vers que les amplifications oiseuses et des comparaisons étourdissantes rendent d'ordinaire si froids s'animent et vibrent de passion. On y dégage, sous des charretées de fatras romantiques, des vers acérés comme des poignards et brûlants comme des fers rouges. Des vers que répétera l'histoire. Les châtiments, l'ouvrage le plus populaire de Victor Hugo, apprit à la jeunesse de l'Empire la haine et le mépris des hommes de l'Empire. Il est des hugolâtres de bonne compagnie, monarchistes, voire même républicains, qui s'effarent aux engueulades des châtiments. Ils n'en parlent jamais, ou si parfois ils les mentionnent, c'est avec des précautions oratoires et des réticences infinies. Leur pudibonderie les empêche de reconnaître les services que ce pamphlet enragé rendit et rend encore aux conservateurs de toute provenance. Hugo agonise d'insultes les Camp Robert et les Saint-Arnaud de la troupe bonapartiste de décembre. Mais il ne décoche pas un seul vers au Cavaignac, au Bréa et au Clément Thomas de la bande bourgeoise de juin. Massacrer les socialistes en blouse lui semble dans l'ordre des choses, mais charger sur le boulevard Montmartre, emporter d'assaut la maison Salandrouse, canarder quelques bourgeois en frac et chapeau gibus, oh, le plus abominable des crimes, les châtiments ignorent juin et ne dénoncent que décembre. En concentrant les haines sur décembre, ils jettent l'oubli sur juin. Dans sa préface 18 Brumaire, Karl Marx dit à propos de Napoléon le Petit: Victor Hugo se borne à des invectives amères et spirituelles contre l'éditeur responsable du coup d'État. Dans son livre, l'événement semble n'être qu'un coup de foudre dans un ciel serein, que l'acte de violence d'un seul individu. Il ne remarque pas qu'il grandit cet individu au lieu de le rapetisser, en lui attribuant une force d'initiative propre, telle qu'elle serait sans exemple dans l'histoire du monde. Mais en magnifiant, sans s'en douter, Napoléon le Petit en Napoléon le Grand, en empilant sur sa tête les crimes de la classe bourgeoise, Hugo disculpe les républicains bourgeois qui préparent l'Empire et innocentent les institutions sociales qui créent l'antagonisme des classes, fomentent la guerre civile, nécessitent les coups de force contre les socialistes et permettent les coups d'État contre la bourgeoisie parlementaire. En accumulant les colères sur les individus, sur Napoléon et ses acolytes, il détourne l'attention populaire de la recherche des causes de la misère sociale qui sont l'accaparement des richesses sociales par la classe capitaliste. Il détourne l'action populaire de son but révolutionnaire qui est l'expropriation de la classe capitaliste et la socialisation des moyens de production. Peu de livres ont été plus utiles à la classe possédante que Napoléon le Petit et les châtiments. D'autres hugolâtres, panégyristes maladroits, prenant au sérieux les déclarations de dévouement et de désintéressement du poète, le représente comme un héros d'abnégation. Il le dépouille de son prestige bourgeois par simplicité. À les entendre, il aurait été un de ces maniaques dangereux, entichés d'idées sociales et politiques, au point de leur sacrifier les intérêts matériels. Il voudrait l'assimiler à ces Blanqui, à ces Garibaldi, à ces Varlin, à ces fous qui n'avaient qu'un but dans la vie, la réalisation de leur idéal. Non, Victor Hugo n'a jamais été assez bête pour mettre au service de la propagande républicaine même quelques milliers de francs de ses millions. S'il avait sacrifié n'importe quoi pour ses idées, un cortège bourgeois, aussi nombreux, ne l'aurait pas accompagné au Panthéon. Monsieur Jules Ferry, lui souhaitant sa fête 2 ans avant sa mort, ne l'aurait pas salué du nom de maître. Si Victor Hugo avait fait de cette politique de casse-cou, il serait sorti de la tradition bourgeoise. Car la caractéristique de l'évolution politique dans les pays civilisés est de débarrasser la politique des dangers qu'elle présentait et des sacrifices qu'elle exigeait autrefois. En France, en Angleterre, aux États-Unis, les ministres au pouvoir et les élus à la Chambre et aux conseils municipaux ne se ruinent plus, mais s'enrichissent. Dans ces pays, on condamne plus des ministres pour tripotage boursicotier, malversation financière et abus de pouvoir. La responsabilité parlementaire couvre leurs fautes et les protège contre toute poursuite. La France républicaine a donné un mémorable exemple de cette politique raisonnable et agréable le jour qu'elle éleva au rang de sénateurs M. Broglie et Buffet pour les consoler d'avoir échoué dans leur tentative du coup d'État monarchiste. La politique parlementaire est une carrière lucrative. Elle n'offre aucun des risques pécuniers du commerce et de l'industrie. Un petit capital d'établissement, une bonne provision de bagout, un brin de chance et beaucoup d'entre-gens y assurent le succès. Hugo ne connaissait que cette politique positive. Dès qu'il se convainquit que l'existence de l'Empire était assurée pour un long temps, il éteignit ses foudres justiciardes et concentra toute son activité à son commerce d'adjectifs et de phrases rimées et rythmées. Il avait, dans son aveugle emportement, lancé des déclarations si catégoriques, et pour son malheur, elles eurent un retentissement si considérable. Il avait marqué les hommes du coup d'état de verre si cuisant qu'il était impossible de les faire oublier. Il lui fallut rester républicain et renoncer à la politique. Il jugea qu'il valait mieux accepter bravement le rôle de martyr de la République, de victime du devoir. Le rôle séduisait la vanité. S'il n'était pas né dans une île, ainsi que Napoléon, il allait vivre exilé dans une île, ainsi que lui. Imiter Napoléon, devenir le Napoléon des lettres, berça l'ambition de toute sa vie. Les proscrits coudoient toutes les misères, disait le grand Florentin. Mais Hugo avait plus d'intelligence que Dante. Avec un art que n'égala jamais Barnum, il fit de l'exil la plus retentissante des réclames. L'exil était l'ancienne criarde et aveuglante accrochée à sa boutique de libraire de Hauteville House. Les rois ne l'avaient pensionné que d'une somme de 3 000 francs. Sa clientèle bourgeoise lui valait 50 000 francs par an. Il n'avait pas perdu au change. Il trouva que l'Empire avait du bon. « Napoléon a fait ma fortune », avouait-il dans un de ces rares moments où il déposait sa couronne d'épines. Comment la bourgeoisie bourgeoisante ne s'extasierait-elle pas devant cet homme qui avait su rendre l'exil si doux et si profitable? Les génies que l'on renomme ne savent trouver que douleur dans l'exil. Les commerçants qui s'expatrient au Sénégal, aux Indes, ces pays de fièvre et d'hépatite, après des 10 et 20 ans d'exil, ne parviennent à amasser qu'une pelote de quelques centaines de mille francs, s'ils ont en poupe le vent de la chance. Et lui, Victor Hugo, le Prométhée moderne, vit dans une île délicieuse où les médecins envoient leurs invalides. Il s'entoure d'une cour d'adulateurs empressés qui le font mousser, il voyage tranquillement en Europe, il thésaurise des millions et il obtient la palme du martyr. Les amis et les adversaires de Victor Hugo ont accrédité des jugements téméraires portés sur lui par la crainte et l'admiration. Dans l'intérêt de sa gloire, il est nécessaire de les réviser. La phraséologie fulgurante du Hugo des 35 dernières années donne la chair de poule aux trembleurs qu'épouvantent les mots. Au prud'homme, pour qui tout saltimbanque, jonglant avec les vocables liberté, égalité, fraternité, humanité, cosmopolitisme, États-Unis d'Europe, révolution et autres balançoires du libéralisme, est un révolutionnaire, un socialiste bon à coffrer, sinon à fusiller. Mais Hugo, et c'est là son plus sérieux titre de gloire, sut mettre en contradiction si flagrante ses actes et ses paroles. Qu'il ne s'est pas encore rencontré en Europe et en Amérique un politicien pour démontrer d'une manière plus éclatante la parfaite innocuité des truculentes expressions du libéralisme.